France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire PPDA. En février 2021, Patrick Poivre d'Arvor, ex-star du 20h de TF1, dit PPDA, l'un des hommes les plus puissants de France, est accusé de viol. C'est l'écrivaine Florence Porcel qui ouvre le bal, si je puis dire. Elle porte plainte pour des faits remontant aux années 2000. Le monde des médias vit son MeToo qui va prendre une ampleur exceptionnelle. Car elles sont 22 femmes à témoigner auprès de la police pour l'affirmer haut et fort. Elles aussi ont été harcelées, agressées ou violées par PPDA dans les années 80, 90, 2000, souvent dans son bureau de la tour de TF1. Et elle dresse le portrait d'un véritable prédateur sexuel au mode opératoire bien rodé qui a usé de sa notoriété et de son pouvoir. À TF1, c'est le malaise. On ne savait pas, assurent les anciens dirigeants, s'ils le disent. Mais quoi qu'il en soit, comment et pourquoi un agresseur en série présumé a-t-il pu sévir pendant des décennies en toute impunité? Il se trouve que cette affaire est en cours. PPDA n'a pas été jugé. Nous respecterons donc ici la présomption d'innocence. Notre invitée aujourd'hui, Hélène Devinck, ex-journaliste à TF1, aujourd'hui écrivaine et toujours journaliste, plaignante dans l'affaire PPDA et autrice du livre intitulé « Impunité » paru en 2022 aux éditions du Seuil. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Margot Boudge, rédaction chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Juliette Gou.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
Novembre 2004, la nuit est tombée sur Boulogne-Billancourt, aux portes de Paris. Une jeune femme de 21 ans se présente devant un bâtiment cylindrique imposant, la tour TF1. Elle entre dans le hall et se dirige vers l'accueil. « Bonjour, j'ai rendez-vous pour assister au journal télévisé de 20h. » Elle décline son identité, Florence Porcel, qui s'estime très chanceuse. Il lui a suffi d'envoyer une lettre à Patrick Poivre d'Arvor, présentateur vedette du JT, pour qu'il la convie dans les locaux de la chaîne de télé. Florence Porcel est écrivaine en herbe. Et dans sa lettre, c'est à l'écrivain PPDA qu'elle s'adressait. Elle apprécie ses livres et a souhaité le lui dire. Elle lui a aussi envoyé quelques textes de sa plume à elle pour avoir l'avis d'un professionnel. Après tout, l'homme anime aussi une émission de littérature. « Venez donc assister demain au JT, nous parlerons de vos écrits », lui répond PPDA. L'hôtesse d'accueil décroche son téléphone. Rapidement, une assistante du présentateur se présente pour amener l'invité sur le plateau du JT. L'assistante désigne l'endroit où Florence doit s'asseoir, sur une chaise placée là, près du prompteur. Autour de la jeune femme s'activent des techniciens qui semblent ne pas la voir. À 20h moins 1, le présentateur de 57 ans fait son entrée. Ni bonjour, ni regard pour son invité. Il s'assoit à une table, fixe la caméra. Le journal peut démarrer.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi.
Aux premières notes du générique de fin de journal, PPDA quitte le plateau sans un mot. Le studio se vide. Que faire à présent? Florence Porcel a à peine le temps de se poser la question que l'assistante réapparaît devant elle. Patrick doit débriefer avec ses équipes et vous demande de l'attendre dans son bureau. D'un coup d'ascenseur, Florence est conduite dans ce vaste espace recouvert de photos du présentateur avec les grands de ce monde. PPDA finit par arriver. Il propose à la jeune femme un verre d'alcool. Elle préfère un jus d'orange. Il se lève et ferme la porte. Voilà 17 ans que cette porte s'est refermée sur Florence Porcel. Elle a aujourd'hui 37 ans. Elle n'a pas chômé. Elle a bâti une carrière florissante de vulgarisatrice scientifique sur YouTube, à la radio, dans l'édition. Mais elle continue à être hantée par le passé. Alors, en ce mois de février 2021, elle porte plainte auprès du parquet de Nanterre. Devant la justice, elle déclare « J'ai été violée à deux reprises par Patrick Poivre d'Arvor ». Face au policier qui l'auditionne, Elle revient sur cette soirée de 2004 dans le bureau de PPDA. Et elle raconte. Le présentateur qui se jette soudain sur elle, sans lui laisser aucun moyen de réagir. Il la viole. Elle est, dit-elle, tétanisée, pétrifiée, déconnectée. Elle est alors vierge et se remet de l'opération d'une tumeur au cerveau. Cet assaut, indique la jeune femme. Elle a mis du temps à le considérer comme un viol. Le fameux déni. Pendant des années, elle dit avoir développé un rapport ambivalent à son agresseur, mêlé de colère et de sentiments amoureux. En 2008, elle a avec lui un rapport sexuel consenti. Elle explique. J'ai voulu le revoir dans un contexte que je choisissais pour reprendre un peu le contrôle sur cette histoire et sur mon propre corps. En 2009, Florence raconte avoir retrouvé PPDA dans le cadre d'une interview qu'elle doit réaliser pour son mémoire d'études. Et cette fois, assure-t-elle, elle n'a aucune intention d'avoir des relations sexuelles avec lui. Alors, pour éviter toute ambiguïté, elle garde son manteau. C'est là qu'il lui aurait imposé une fellation dans son bureau. Cette fois, j'ai compris tout de suite que c'était un viol, déclare-t-elle. Dans son livre intitulé « Honte », qu'elle publiera en 2023, elle écrit.
Parce qu'il m'avait bloqué dans un coin aussi étroit que la largeur de mes épaules. Parce que je voulais partir, mais qu'il se servait de son corps comme d'un mur. Parce que j'ai dit non, plusieurs fois. Parce que j'ai gesticulé comme je pouvais pour me dégager, mais qu'il refusait de reculer. Parce qu'il m'a assise de force sur cet accoudoir. Parce que j'ai dit non, encore, plusieurs fois. Parce qu'il n'en a eu cure.
Florence Porcel porte plainte. Il lui a fallu 12 ans et bien des étapes pour avoir le courage de le faire. Une psychothérapie d'abord, la rédaction d'un roman cathartique ensuite, dans lequel elle fictionnalise sa relation avec l'animateur. Il lui a sans doute fallu aussi l'émergence de MeToo, mouvement social planétaire encourageant les femmes à briser le silence sur les violences sexuelles subies, pour que Florence se décide à sauter le pas. Elle le sait, sa plainte, qui concerne des faits non prescrits pour le second viol, risque d'arriver aux oreilles des médias. Et elle fera du bruit. Car Patrick Poivre d'Arvor, qui a longtemps régné sur le PAF, est une personnalité ultra connue des Français et longtemps surpuissante. Les grands de ce monde s'en souviennent, passé chez lui, dans son journal. C'était bénéficié de la plus forte tribune médiatique depuis plusieurs décennies. PPDA naît en 1947 à Reims, d'un père commercial et d'une mère au foyer. Il rêve de devenir écrivain, mais s'oriente vers des études de journalisme. Il accole alors à son nom la particule d'Arvor, pseudo de plume d'un grand-père qui compose de la poésie. Un nom à rallonge, ça marque quand on veut faire carrière. Le jeune homme, qu'on surnomme bientôt PPDA, est ambitieux et talentueux. À 23 ans, il s'envole au bout du monde pour participer à un concours de jeunes reporters organisé par l'émission Envoyé spécial sur France Inter. Le 5 juillet 1971, il fait son apparition sur les ondes de la radio que vous écoutez en ce moment.
Je crois qu'en fait, si je suis parti aux Philippines, c'est d'abord parce que je voulais découvrir quelque chose que je ne connaissais pas du tout, c'est-à-dire l'Extrême-Orient, et surtout parce que depuis un jour, depuis hier très exactement, les Philippines ont 25 ans, c'est-à-dire 25 ans de République, un quart de siècle, et j'ai voulu savoir un petit peu ce qui s'y passait, parce que comme vous le dites, on ne sait rien sur les Philippines en France, et on ne sait rien sur la France aux Philippines.
Sa voix enveloppante, bien qu'un peu précieuse, et sa capacité à obtenir l'interview exclusive du président Marcos séduisent le jury. Il obtient ainsi un contrat à France Inter, où il est chargé des journaux du matin. En 76, c'est sur le petit écran que PPDA s'affiche, désormais. La chaîne de télé Antenne 2 le choisit pour être l'un des présentateurs du JT de 20h. Et c'est un succès. Sa dégaine de gendre idéal, son aisance, sa réactivité, son sens de la formule, ses références volontiers littéraires, ses lancements courts et jamais plombants font qu'il surclasse rapidement ses collègues et se retrouve seul à l'antenne. Mais en 83, il claque la porte. Il n'aurait pas supporté de partager son trône avec sa consœur présentatrice, Christine Ockrent. C'est à TF1 que PPDA obtient la liberté qu'il espère. En 87, il est nommé seul responsable du journal de 20h. La première chaîne nouvellement privatisée ambitionne de faire de ce rendez-vous quotidien le programme le plus regardé de France et même d'Europe. Et ça marche. En moins d'un an, son journal réunit jusqu'à 10 millions de téléspectateurs. plus d'un sixième des Français, pour qui le JT est encore le moyen d'information privilégié, la messe cathodique incontournable. 5 fois par semaine, PPDA apparaît tous les soirs à 20h. Parfois, il sort de son décor habituel pour partir en reportage au bout de la planète ou pour interviewer les grands de ce monde. Et au sein de la tour TF1, on lui passe tout. En 91, son bidonnage, l'interview de Fidel Castro, resté célèbre dans les annales des mauvaises pratiques journalistiques, lui vaut la huée des médias. Mais il n'écope d'aucune sanction de la direction de la chaîne. Michèle Cotta, directrice de l'information de TF1 de l'époque, se souvient d'un complément d'enquête en 2022.
Il aurait été inconcevable de, à ce moment-là, de dire on se sépare de toi. On aurait été fou, on ne virait pas Patrick Pavlova.
Et pourquoi ?
Parce que c'était lui qui était la locomotive, au fond, de la chaîne. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, on faisait 40% d'audience. C'est vrai que d'une certaine façon, il était intouchable.
PPDA est le présentateur télé le plus identifié, au point que le guignol de l'info choisit sa figure pour incarner le taulier de l'émission satirique. Et puis en 1982, il gagne ses galons d'écrivain. Avec la publication des Enfants de l'Aube, la France découvre en PPDA qu'elle n'imaginait plus lisse, un romancier au romantisme débridé. C'est un succès d'édition, suivi par nombreux autres. En 93, il émeut le pays entier en révélant l'anorexie de sa fille Solène dans ses lettres à l'absente. 2 ans plus tard, la jeune femme se suicide et PPDA reprend la plume. Son livre « Elle n'était pas d'ici » est un best-seller. Au mi-temps des années 2000, PPDA, qui présente aussi l'émission littéraire Vol de nuit, est partout. Il s'étale à la une des magazines People, qui font les choux gras de ses relations extra-conjugales. Il est décrit comme un éternel séducteur et l'éternel roi de TF1. Mais plus pour longtemps. 8 juin 2008, tempête sur la planète média. Nonce Paolini, nouveau président directeur du groupe TF1, décide de se séparer du présentateur vedette après 21 ans de bons et loyaux services. Dans la presse, PPDA exprime son aigreur et affirme y voir la main d'un Nicolas Sarkozy nouvellement élu qui n'aurait pas apprécié que le journaliste le compare à un petit garçon excité. En coulisses, on dit plutôt que c'est l'omnipotence d'un PPDA qui ne travaille plus beaucoup qui lui vaut son éviction. Il a 61 ans, mais pas question de prendre sa retraite. Les journalistes connus souffrent souvent, entre guillemets, du complexe de Dalida, ils veulent mourir sur scène. Alors la retraite, c'est bon pour les autres. PPDA, qui doit considérer que sa présence à l'antenne est indispensable à la vie des Français, anime une myriade d'émissions sur des chaînes câblées et publie des livres, dont certains plagiats révélés font scandale. Mais loin de TF1 et de l'exposition quotidienne, son étoile pâlit. Et ce n'est que le début.
Selon nos informations, une enquête judiciaire pour viol a été ouverte cette semaine contre l'ex-star du 20h de TF1. L'écrivaine Florence Porcel l'accuse d'avoir abusé d'elle à plusieurs reprises entre 2004 et 2009 dans un contexte d'emprise psychologique et d'abus de pouvoir.
En ce 18 février 2021, le Parisien dévoile en une la plainte de Florence Porcel. Et rapidement, des articles laissent entendre que l'accusation de la plaignante ne surprend personne. Car PPDA a une réputation bien établie. On le sait insistant, pressant, oppressant avec les femmes. Le Parisien et le journal 20 minutes déroulent des bouts de témoignages anonymes émanant de femmes ayant croisé sa route. PPDA y est décrit comme habitué du harcèlement sexuel au téléphone, des baisers forcés, des attouchements. Un homme qui n'hésite pas à forcer la chambre d'hôtel d'une journaliste ou à réclamer des faveurs sexuelles en échange d'une évolution professionnelle. 3 mars 2021, Patrick Poivre d'Arvor, 73 ans, fait son entrée sur le plateau de Quotidien, La Mine Grave. Il a choisi l'une des émissions les plus regardées de France, dépendant d'une filiale de son ancien employeur TF, pour, dit-il, rétablir la vérité. Devant Yann Barthès et un parterre de chroniqueurs dans leurs petits souliers, il prend la parole. Il l'assure, il n'a jamais abusé de Florence Porcel. Si elle porte plainte, c'est pour booster les ventes d'un livre de fiction paru en début d'année et qui romance le viol qu'elle aurait vécu. Devant la caméra, il brosse le portrait d'une plaignante ayant développé pour lui une passion non partagée et dont le cas pourrait intéresser un psychiatre. Il déclare « J'étais en colère, mais j'ai de la compassion. Que se passe-t-il dans la tête de cette femme pour qu'elle passe de l'admiration à la fabulation ?» Interrogé sur les témoignages qui affluent contre lui, il s'insurge. Ce sont des inventions totales, proférées de manière anonyme. Et il le clame. « Il n'y a rien de pire pour moi que de contraindre quiconque, surtout une femme, à quoi que ce soit. Cela ne peut pas être dans ma nature. » Sa nature, la séduction, l'ambiguïté, affirme-t-il. Et par les temps qui courent, proteste-t-il.
Eh ben, c'est pas impossible, parce que j'ai réfléchi évidemment à ça depuis. Ce comportement où il y avait parfois des petits bisous dans le cou, parfois des petits compliments, ou parfois du charme ou de la séduction, ce comportement aujourd'hui n'est plus accepté par les jeunes générations ou par un certain nombre de jeunes générations. Si vous voulez mon avis, je le regrette. Moi, j'ai peut-être dragué, je pense que j'ai jamais fait de drague lourde.
Sur le plateau, le malaise est palpable. Personne ne semble savoir quelle attitude adopter face à un homme célèbre qui jure sur ses grands dieux qu'il n'a jamais rien fait de répréhensible. Donc on le laisse parler. Pendant 25 minutes, PPDA déroule, conspuant le climat de délation, les tribunaux populaires, la jalousie des médias. Quand soudain, il assure que jamais personne n'oserait venir, les yeux dans les yeux et non sous couvert d'anonymat, lui dire qu'il s'est mal comporté. Eh bien, il va vite comprendre qu'il n'en est rien. Et il précipite sa chute. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire PPDA.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Mars 2021, le téléphone de la brigade de répression de la délinquance contre la personne n'arrête pas de sonner. Elles sont 22 femmes à vouloir venir témoigner dans ce qui est devenu l'affaire PPDA. 22, un record, probablement. Elles ne se connaissent pas, mais toutes expriment une même volonté. Soutenir Florence Porcel, que PPDA a presque traité de folle sur le plateau de Quotidien et que les réseaux sociaux couvrent d'injures. Et elles sont prêtes, ces femmes, à dire, les yeux dans les yeux, sous leur nom et devant la justice, que PPDA les a harcelées, agressées, violées. Reçues l'une après l'autre par le major chargé de l'enquête préliminaire, beaucoup racontent des faits très similaires. PPDA leur a fait ce qu'elles appelleront plus tard le coup du plateau. À savoir, dans les années 80, 90, 2000, nombreuses sont celles que PPDA invite à assister au JT de 20h de TF1. À l'époque, elles sont des journalistes débutantes, plus installées ou bien des écrivaines en devenir. Toutes racontent le même cérémonial. Un présentateur qui ne les salue pas, ne s'adresse pas à elles pendant le JT, mais qui admoneste ses équipes. Elles sont ensuite conduites par une assistante de PPDA dans le bureau du présentateur, seule pièce cloisonnée de l'open space que constitue la rédaction du JTTF1. C'est là que doit se tenir l'entretien. Elles sont rejointes par le présentateur, qui les accable de questions intrusives. Êtes-vous en couple? Fidèle? Satisfaite sexuellement? Vous masturbez-vous? Et brusquement, PPDA se jette sur elles. Certaines repoussent, et il est comme je l'ai dit froidement. D'autres s'enfuient, d'autres encore sont sidérées, pétrifiées, tétanisées et subissent les rapides assauts du présentateur. En silence. C'est le cas de la journaliste Stéphanie Kayat, conviée en 94 pour un entretien d'embauche après le JT. Voilà un extrait de sa déposition qu'elle résumera plus tard dans Libération.
PPDA ferme la porte. On échange quelques mots, puis il prend un appel. Je reste debout. Et je me tourne vers sa bibliothèque pour me donner une contenance. Je ne l'entends pas approcher. Il me retourne brusquement, m'oblige à me baisser et enfonce son sexe dans ma bouche. Je ne suis pas là depuis 10 minutes. Ça a été brusque, soudain, rapide. Je pesais 30 kilos, j'étais anorexique. Il était impossible de ne pas le voir. Je ne me souviens pas de la suite. Je ne me souviens pas de ce qu'il m'a dit, de la manière dont j'ai quitté son bureau. Je sais juste que j'ai été me rincer la bouche aux toilettes.
Parmi celles qui s'estiment victimes de PPDA, plusieurs sont alors anorexiques. Elles ont écrit au présentateur car elles ont été touchées par les livres qu'il a consacrés à sa fille, malade. En venant le voir, elles pensaient rencontrer le père meurtri à même de comprendre le calvaire qu'elles traversent. N'a-t-il pas fondé en 2004 la Maison de Solène, havre de paix pour les adolescentes en difficulté? En toute logique, ces femmes considèrent aujourd'hui que l'état physique et mental dans lequel elles se trouvaient à l'époque est une circonstance aggravante à l'agression ou au viol qu'elles disent avoir subi. On ne met rien dans la bouche d'une anorexique et encore moins un sexe d'homme, et ils le savaient puisque sa fille était malade, explique Stéphanie Kayat. Au terme d'une série d'auditions, l'enquêteur de police rend son rapport. Sa conclusion est lapidaire.
Les témoignages décrivent un prédateur sexuel abusant de sa notoriété et usant d'un mode opératoire similaire dans l'approche de ses victimes et dans la brutalité de ses actes. Commis sans la moindre tentative de séduction, ni la moindre considération envers les femmes qui osaient refuser ses avances.
Au printemps 2021, 8 femmes décident de porter plainte pour harcèlement sexuel, agression, viol. PPDA est alors confronté aux déclarations des plaignantes. Et il nie tout en bloc. Oui, il a bien couché avec celle-ci, dans son bureau, elle était consentante. Celle-là, il ne la connaît pas. À l'enquêteur, qui lui demande d'expliquer pourquoi toutes ces femmes mentiraient, PPDA répond, je le cite bien sûr, qu'elles lui en veulent probablement de les avoir oubliées ou se sont muées en militantes dans l'air du temps. Ajoutant qu'il se livre parfois à des avances légères, mais ne comptera jamais les femmes. Les plaignantes, elles, espèrent un procès. Mais c'est la douche froide. En juin 2021, la plainte de Florence Porcel est classée sans suite pour insuffisance de preuves. Les autres accusations, elles, tombent sous le coup de la prescription. Les faits sont considérés comme trop anciens. Mais ces femmes n'entendent pas enterrer l'affaire, les médias non plus. Comment ignorer en effet que des témoignages et des plaintes continuent à se multiplier à l'encontre de l'ex-présentateur ? Si on n'entend pas les plaignantes sur le terrain judiciaire, on les entendra sur le terrain médiatique.
C'est un événement exceptionnel. Jamais les femmes dont vous allez entendre les récits n'avaient été réunies dans un seul et même plateau, dans une même émission. La plupart ne se connaissaient pas avant le début de l'affaire. Certaines se rencontrent pour la première fois aujourd'hui.
Bonjour à toutes. Vous venez de partout en France. Vous êtes journaliste, autrice, mais aussi employée de magasin, enseignante, bibliothécaire. Vous avez en commun d'avoir témoigné dans l'enquête judiciaire contre Patrick Poivre d'Arvor, présentateur star du journal télévisé de TF1 pendant 20 ans.
Mai 2022, voilà plus d'un an que l'affaire PPDA a éclaté. Et elles sont là, effectivement, sur le plateau de l'émission à l'air libre de Mediapart. 20 femmes se considérant à divers degrés comme ayant été victimes de PPDA. Pour le téléspectateur, c'est un choc. Tant de femmes qui s'expriment à visage découvert et qui décrivent un même prédateur au comportement aussi compulsif que ritualisé. Leur nombre apparaît comme la plus incontestable des preuves. Et chacun se demande, comment un seul homme a-t-il pu abuser de tant de femmes, souvent sur son lieu de travail, sans jamais être inquiété ? C'est évidemment la question que se posent les journalistes. Que savait TF1 ? Eh bien, pas grand-chose, à en croire les anciens hauts gradés de la chaîne. Ils l'affirment, oui, ils savaient que PPDA était un dragueur lourdingue. C'était de notoriété publique. Mais ils n'ont jamais soupçonné qu'il puisse être aussi un agresseur. Robert Namias, directeur de l'information de TF1 de 1992 à 2008, le dit dans Libération. Je n'ai jamais été saisi d'une plainte orale ou écrite sur une agression ou un viol commis par Patrick Poivre d'Arvor. Si cela avait été le cas, j'aurais agi. Même son cloche pour Nonce Paolini, qui dit ne pas avoir licencié PPD en 2008 pour son comportement vis-à-vis des femmes. La vérité, c'est que parmi celles qui accusent PPD de viol, certaines n'auraient jamais osé parler. Elles le disent elles-mêmes. Le déni, la honte, la peur de ne pas être crue, le sentiment de ne pas faire le poids. Voilà ce que dit Hélène Devinck, qui accuse le présentateur de l'avoir violée en 1993, alors qu'elle était sa subordonnée, la rédactrice attitrée de ses lancements.
C'est-à-dire que le silence dans le milieu de la télévision était absolument imposé. Parler, c'était non pas le pot de fer contre le pot de terre, mais c'était la certitude de se faire pulvériser. Et même parler à quelqu'un qui aurait pu parler, c'était impossible. C'est-à-dire que forcément, le pouvoir de Patrick Poivre d'Arvor dans la rédaction, où l'abus de son pouvoir était tel que on avait mais aucune chance de se faire entendre. C'était inimaginable de parler, c'était exploser son avenir professionnel, si c'est pas son avenir personnel aussi.
Ne pas être grillé, pénalisé dans sa carrière, c'est ce qui aurait conduit également Chloé, l'une des seules plaignantes à préférer témoigner de dos sur le plateau de Mediapart, à terrain viol. En 2003, cette jeune journaliste à TF1 est convoquée par Patrick Poivre d'Arvor dans son bureau pour discuter d'un reportage qu'elle a réalisé. La conversation démarre sur le volet professionnel. Quand soudain, raconte-elle, son supérieur fait le tour de son bureau, l'allonge, l'embrasse et lui impose un viol digital. Elle est sidérée et n'envisage pas une seconde de porter plainte, ni d'en parler à sa hiérarchie. « J'ai eu peur qu'il se venge », explique-t-elle, précisant que PPDA a obtenu la tête de gens bien plus haut placé qu'elle. N'est-il pas connu que le présentateur vedette a fait licencier la directrice de l'info de la chaîne, Michèle Cotta, lorsque celle-ci a tenté de mettre en place une charte de déontologie, après que PPDA a été condamné pour abus de biens sociaux en 93. Alors Chloé ne dit rien. À TF1, elle rase les murs. Et quand PPDA commence à dénigrer son travail, qu'il avait jusque-là complimenté, elle choisit de partir. PPDA aurait-il pu sévir en toute tranquillité parce que les femmes se sont tues ? Pour plusieurs plaignantes, ça ne tient pas. « J'en ai parlé à tout le monde », clame-t-elle. On le sait, en 89, le journal Minute a publié un article intitulé « Un satire à TF1 ». Après avoir été contacté par Caroline, qui dit avoir été violée par PPDA alors qu'elle était mineure. Certaines affirment avoir donné l'alerte aux plus hautes autorités. C'est le cas de Muriel Reus. En 2005, cette directrice d'une filiale de TF1 est conduite dans le bureau de PPDA après avoir été priée d'assister au JT, comme d'habitude. Là, raconte-t-elle, il baisse son pantalon. Estomaqué, elle lui lance. Enfin, Patrick, qu'est-ce que tu fais? Tu connais mes relations avec la direction TF1. Alors il remonte son pantalon. Dès le lendemain, Muriel Réus décroche son téléphone pour prévenir le directeur général de la chaîne, Patrick Lelay. Elle raconte dans Arrêt sur image.
Bah, moi, je lui dis, il faut que je te raconte ce qui s'est passé hier dans le bureau de Patrick Poivre d'Arvor. Et il me dit, d'abord, sa première réaction, c'est de me dire, mais pourquoi tu as été dans ton... Pourquoi as-tu assisté au JT? Je lui dis, écoute, la problématique, c'est pas de savoir pourquoi j'ai assisté au JT, c'est plutôt ce qui s'est passé ensuite. Et j'ai juste commencé à lui raconter, et il m'a interrompu en me disant, mais non, il n'a pas osé aussi avec toi. Et donc, je lui ai dit, mais si tu me réponds cela, c'est que tu sais bien qu'il se passe des choses qui ne devraient pas se passer dans ce bureau. Et il m'a dit, je m'en occupe. Voilà.
Cécile Timoreau, une autre plaignante, assure également avoir dénoncé PPDA en haut lieu. Après avoir, dit-elle, été agressée sexuellement par PPDA en 97, cette reporter de TF1 va voir Robert Namias. Le directeur de l'information de la chaîne lui aurait alors répondu « Il fait chier, on va s'occuper de lui ». Aujourd'hui, Robert Namias dit ne pas se souvenir de cet échange avec Cécile Timoreau. Cette dernière répond que Poivre d'Arvor ne l'a plus importunée après cela. Tiens donc. Mais le ballet des jeunes femmes passant du plateau du JT au bureau de PPDA a continué. À une heure tardive, mais à la vue d'un grand nombre de personnes, Muriel Réus s'insurge sur le plateau d'Arrêt sur image. « Dans une entreprise, dit-elle, on est censé être en sécurité. Pourquoi ne s'est-on jamais posé la question de la sécurité de toutes ces femmes conviées le soir dans ce bureau après un JT » proteste-t-elle. Cependant, certaines personnes ont eu à cœur de protéger les femmes. C'est le cas de l'ancienne directrice des études de l'Institut pratique de journalisme, Catherine Lambray. En 2022, dans l'émission Complément d'enquête, elle soutient que des journalistes de TF1 donnant cours à l'IPJ lui ont fait des préconisations.
Chaque fois, il me conseillait, depuis l'année 83-84, et après, ensuite, les années suivantes, de ne jamais envoyer de filles là où PPDA pouvait être.
Donc à l'époque, vous faisiez en sorte d'envoyer quoi?
J'envoyais que des garçons.
En 1987, quand PPDA rejoint TF1, Catherine Lambray applique le même principe de précaution.
Quelle était la réputation de
Poivre? C'était sa réputation. Il attaquait les filles. Pendant 10 ans, je n'ai jamais envoyé une fille en stage à TF1.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est une accusation grave?
C'est une accusation grave, mais l'ensemble des journalistes de la rédaction à l'époque le disaient.
Disaient quoi?
Ils disaient qu'il ne fallait pas rester dans la rédaction de TF1 en fin de journée, être la dernière à partir, parce que sinon PPDA risquait de se jeter sur vous.
Pendant une décennie, il semble qu'on ait jugé préférable qu'une génération d'étudiantes de l'une des meilleures écoles de journalisme de France se fasse barrer l'accès à l'une des principales chaînes de télévision plutôt que de prendre des mesures contre l'animateur phare. L'impunité à l'état pur. PPDA faisait de l'audience. L'a-t-on jugé intouchable? On a forcément raté quelque chose, concède Robert Namias, auditionné à l'Assemblée nationale en 2024. Nous sommes en 2026 et l'affaire PPDA est en cours. Elles sont aujourd'hui 50 femmes à accuser l'ex-présentateur de les avoir violées ou agressées. Parmi elles, 11 se sont portées partie civile. Et elles espèrent bien qu'il y aura un procès. Et elles ont de quoi y croire. 4 d'entre elles dénoncent des faits qui ne sont pas prescrits. De plus, le tribunal a pris une décision rarissime dans les affaires de violence sexuelle. Réexaminer les plaintes qui avaient été automatiquement classées sans suite en 2021 pour prescription. Motif invoqué, la sérialité des faits dont est accusé PPDA. Même type de victime, même mode opératoire. La justice considère ainsi que la prescription des faits dont est accusé PPDA pourrait s'interrompre si ces faits sont rattachés à d'autres, identiques et non prescrits. Alors, verra-t-on un jour l'ex-présentateur star, qui reste présumé innocent des faits dont on l'accuse, faire face à ces accusations au tribunal? Possible, mais pas garanti.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire PPDA. Notre invitée, Hélène Devinck. Bonjour.
Bonjour Fabrice Drouel.
Vous avez été journaliste pour TF1, puis LCI. Vous êtes l'autrice du livre intitulé « Impunité », paru en 2022 au Seuil, qui parle de l'affaire qui nous occupe. Vous avez porté plainte en 2021 contre Patrick Poivre d'Arvor pour un viol remontant à 1993. Vous étiez alors sous la supervision directe du présentateur pour qui vous écriviez les lancements du JT. Alors, l'affaire PPDA commence en février 2021. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez appris la plainte de Florence Porcel contre Patrick Poivre d'Arvor? C'est tellement important dans ces affaires-là de ne pas être seul.
Évidemment. Quand Florence Porcel a porté plainte, MeToo avait quelques années, c'est 2017, donc en 2021, MeToo avait 4 ans, et c'était encore un peu vacillant. Il y avait eu quelques affaires retentissantes, mais quand Florence Porcel a porté plainte, moi je savais bien qu'il y avait d'autres femmes, et j'en étais. Donc je lui ai juste adressé un petit mot, je l'ai trouvé sur Instagram en lui disant « je suis bien placée pour vous croire ».
Bien sûr. Donc la plainte de Florence fait boule de neige, vous portez plainte, comme de nombreuses autres femmes. Mais vous êtes la première à avoir témoigné à visage découvert dans la presse, en l'occurrence dans Le Monde, en mars 2021. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous exposer médiatiquement quand on sait à quel point ça peut être difficile?
Vous le racontez dans ce récit que vous venez de faire et qui est assez émouvant parce que ça nous remet au moment où ces choses-là se sont passées. Patrick Poivre d'Arvor, il est allé sur une émission d'une chaîne qui appartient à TF1, Quotidien, donc qui était son employeur et mon employeur à l'époque, pour dire que effectivement Florence Porcel était une folle, qu'il avait jamais rien fait de mal et que vous l'avez rappelé, personne n'était jamais venu le voir les yeux dans les yeux pour lui dire ce que tu as fait était pas bien. Cette émission était tellement scandaleuse pour des gens comme moi qui avaient eu affaire à lui que derrière moi c'est ça qui m'a décidé à témoigner à la police. Le lendemain, j'ai appelé l'inspecteur, enfin le major qui s'occupait de cette affaire. Et par ailleurs, il avait utilisé, lui, le tribunal médiatique pour condamner Florence Porcel et condamner toutes celles qui allaient parler à sa suite. Donc, il y avait une évidence qui était de retourner ça. Après, personnellement, c'est extrêmement difficile de se lancer là-dedans parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Une fois qu'on a donné son nom, une fois qu'on l'a raconté, une fois qu'on est dans la presse, la crainte, c'était de voir éternellement son nom associé au sien. Et ce qui m'a décidé, en réalité, ce sont mes enfants. Je leur ai demandé ce qu'il fallait que je fasse et ils m'ont dit « Maman, tu n'as rien fait de mal ». Et je me suis fait, après on l'a entendu beaucoup, par exemple à Mazan, quand on entend Gisèle Pelicot dire il faut que la honte change de camp, etc. Le viol a cette particularité de faire un transfert de culpabilité. C'est-à-dire que le violeur se sent innocent et la victime se sent coupable. Et donc ces mots de mes enfants, tu n'as rien fait de mal, je me suis dit que si moi, qui suis quand même privilégiée, qui ai un accès aux médias tel que j'écrivais moi-même dans le journal Le Monde mon témoignage. Si je ne pouvais pas le faire, qui pouvait le faire?
Et comment avez-vous été reçu par le major en question? C'est important, ça fait partie des étapes importantes. Si la police trouve crédibles les plaignantes, sans leur dire « mais vous n'aviez qu'à faire attention, comme ça arrivait avant », c'est un progrès. Comment ça s'est passé?
J'y suis allée avec beaucoup d'appréhension, forcément, puisqu'on entend des récits de femmes qui sont très très mal reçues dans les commissariats. Ça n'a pas été le cas. Le major était, je crois, un homme attentif, délicat, et qui a mené cette enquête assez rapidement. C'est-à-dire que la première enquête a duré quelques mois, ce qui est rare pour ce genre d'affaires, et qui en a conclu, vous l'avez lu, que nous dénoncions un prédateur sexuel avec un mode opératoire récurrent, agissant avec brutalité, sans séduction, etc. Le problème, c'est que cette première enquête, c'est-à-dire qu'on était... Moi, quand je l'ai vu, le major, il m'a dit « on va le coincer ». Et puis, on a été classé sans suite.
Eh oui.
En quelques mois, si ce n'est pas en quelques semaines. Et le classement sans suite est extrêmement violent.
J'allais vous poser la question. Qu'est-ce qu'on ressent, là, le classement sans suite? Évidemment, c'est une violence.
C'est 9 fois sur 10, quand on porte plainte pour des violences sexuelles, il y a ou un classement sans suite ou un non-lieu, et on le voit dans énormément d'affaires. Ça veut dire que une fois que le classement sans suite est passé, l'agresseur peut dire, vous voyez, la justice m'a blanchi. Et donc, ce sont toutes des menteuses.
Et, oui.
Et tout d'un coup, nous, on est tombés dans un... On est tombés de haut, et puis plus personne ne voulait nous écouter aussi à ce moment-là, une fois que la justice nous a claqué la porte au nez. C'est-à-dire qu'on était sortis du silence pour y être renvoyés. Ce à quoi on n'a pas voulu se résoudre, et c'est pour ça qu'on a continué à parler. On s'est dit, si la justice nous ferme la porte, nous allons parler dans les médias pour que l'opinion publique sache ce que la justice a comme élément et qu'elle n'arrive pas à juger.
Vous avez travaillé à TF1, donc, au début des années 90. C'était quoi l'ambiance qui régnait autour de lui, de sa personne?
C'est court de s'arrêter à lui et à sa personne. Alors, vous l'avez rappelé très bien, Fabrice, on l'appelait le roi soleil. Mmh. C'est-à-dire que c'était un tyran, désinvolte, paresseux, radin, qui avait énormément de succès et qui mélangeait, on va dire, ses affaires privées et ses affaires professionnelles. Il était tout puissant, absolument tout puissant dans la rédaction. Mais c'est pas pour rien qu'il était tout puissant. Il n'était pas le seul délinquant sexuel à travailler dans cette rédaction. TF1, quand j'y ai commencé, moi, dans les années 90, et sans doute jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il n'y a jamais eu de remise en question, de transparence ou de tentative de réparation, abritait un certain nombre de délinquants sexuels. Il y en a beaucoup qui ont été cités. Et c'était un monde très violent, et vous avez diffusé cet extrait de Catherine Lambré, directrice de l'IPJ, l'école de rédaction, qui dit « Je n'envoyais pas de filles là-bas pour les protéger ». Mais dans la rédaction de TF1, ce système de prédation quasi industrielle que Patrick Poivre d'Arvor avait mis en place, c'était aussi une très très violente discrimination pour les femmes, parce que les hommes n'avaient pas, même quand ils étaient journalistes débutants, les mêmes difficultés que nous dans cette rédaction. Et une rédaction qui était donc très patriarcale, aussi très paternaliste, dans le sens où ça vivait un peu comme une famille, et ce côté paternaliste avait des bons côtés aussi.
Alors justement, ça nous amène à la question de la direction de TF1, on se pose toujours la question, que savait-elle? Que n'a-t-elle pas fait?
On peut faire beaucoup de spéculations. Je pense que Fabrice Drouel, vous savez, vous, la réputation qu'avait Patrick Poivre d'Arvor dans tout Paris, on va dire, et même au-delà. La rédaction de TF1 ne pouvait pas ne pas être au courant.
Ça paraît clair. Ouais.
Parce que, notamment, on a retrouvé, longtemps après que nous ayons été classés sans suite, une plainte qui date de 2005, qui est une plainte pour viol d'une jeune femme qui s'appelle Caroline Merlet, qui a subi un coup du plateau que vous avez raconté, qui décrit, mais à la seconde près, la même chose que ce que les femmes décriront 20 ans plus tard devant le major et dans l'enquête. Donc c'est une preuve absolue. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas avoir inventé, on ne peut pas avoir inventé aujourd'hui. Mais les policiers à l'époque ont pris cette plainte suffisamment sérieux pour interroger les secrétaires et faire une perquisition, plus précisément un transport de police, pour fouiller le bureau de Patrick Poivre d'Arvor. Mmh. L'affaire a été classée sans suite. Il n'empêche que personne dans la direction de TF1, TF1 comme personne morale, la sécurité de TF1, la direction de la rédaction, ne pouvait ignorer ce transport de police dans les locaux en pleine journée pour une plainte pour viol. Et ça, aujourd'hui encore, tout le monde dit non, on savait rien, on regarde ailleurs, on n'était pas au courant.
Bien sûr. Et c'est un scénario sans fin, c'est-à-dire qu'il est puissant, donc on ne touche pas.
On a plein d'exemples. L'exemple de l'abbé Pierre est assez parlant, c'est-à-dire que l'omerta autour de l'abbé Pierre a duré des dizaines d'années comme l'omerta autour de Patrick Poivre d'Arvor. En même temps, tout le monde savait. Ce qui est très différent, c'est qu'aujourd'hui, Emmaüs et l'Église ont mis en place une commission d'indemnisation pour les victimes, ont une volonté de transparence, une volonté de réparation, qui est le comportement exact opposé de TF1, qui, comme institution, continue à nier et à nous calomnier.
France Inter. Affaires sensibles.
Hélène Devin, qu'une grande majorité des plaignantes dénoncent des faits aujourd'hui prescrits. Alors, il faut savoir que pour un viol de personnes majeures, le délai de prescription est de 20 ans à compter des faits. Et dans le débat public se pose aujourd'hui régulièrement la question, et je vous la pose, faut-il revoir ces délais de prescription ?
Je suis obligée de vous reprendre. C'est-à-dire que ces faits ne sont pas prescrits. C'est ce que nous, on a essayé de démontrer, et pour l'instant, la justice nous entend. Le premier classement sans suite nous a dit, c'est trop vieux, la justice ne fait pas d'archéologie, en gros, on peut rien pour vous, au revoir madame. Or, on le croit quand c'est un procureur qui vous dit ça. Nous, on est, moi, je suis pas juriste. Je suis pas... Mais en cherchant un peu, on a trouvé que non, ça ne marchait pas parce que il y a une règle qui commence à être connue dans la jurisprudence, qui est encore un petit peu débutante, mais enfin, on s'applique à la faire connaître, qui est que quand c'est le même mode opératoire et les violeurs, les prédateurs répètent souvent les mêmes choses, il y a ce qu'on appelle la connexité, c'est-à-dire que faire jouer la prescription, dans le cas de Patrick Poivre d'Arvor, c'est l'avoir protégé en nous empêchant de parler quand les faits se sont produits, en ne nous écoutant pas pour celles qui ont parlé à ce moment-là, et derrière, quand on parle et qu'on parle massivement, on nous dit « Ah ben non, c'est trop tard, au revoir madame ». En fait, ça se passe pas comme ça, et 11 plaignantes sont désormais parties civiles en contestant, en tout cas pour 7 d'entre elles, la prescription. C'est ce que j'ai fait. La prescription, il faut comprendre que c'est les juristes sont très attachés au principe, parce que c'est vrai qu'il y a un droit à l'oubli, que quand les affaires sont trop vieilles, on a l'impression qu'on trouvera pas de preuves, etc. Si on regarde bien, c'est très contredit. Par exemple, là, Judith Godrèche publie un livre qui s'appelle « Prière de remettre en ordre avant de quitter les lieux » où elle accuse Benoît Jacquot de l'avoir violée quand elle avait 14 ans. Benoît Jacquot a avoué, enfin, il dit même que le cinéma était une couverture pour un trafic de jeunes filles. Les preuves, il y en a des milliers, puisque l'affaire était de notoriété publique. Dans ce cas-là, à quoi sert la prescription ? Il y a des preuves, il y a des aveux, elle sert juste à ne pas juger ou à ne pas remettre en cause un homme.
Et quand on parle de droit à l'oubli, quand on a été violé, agressé sexuellement, l'oubli, il est jamais là. Le droit à l'oubli, c'est terrible de dire quand même le droit à l'oubli. Quand on porte le traumatisme d'un viol très longtemps, il n'y a pas de droit à l'oubli.
C'est même une des composantes essentielles et des plus douloureuses du traumatisme, c'est que le traumatisme, ça vous plonge dans un présent permanent. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui encore, certains mots, certaines choses qui me font me replonger dans ce qui m'est arrivé, ça reste douloureux et intact, même 30 ans après.
J'espère que l'heure que nous venons de passer n'a pas été trop douloureuse.
Non, pas du tout.
Elle avait vocation à être utile, pas douloureuse. Merci infiniment, Hélène Devinck.
Merci à vous, Fabrice.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire PPDA, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Maxime Goudard.